Chapitre 167. Yona marche aussi vite qu'il peut en direction de la voie ferrée. Le lourd coupe-boulon heurte plusieurs fois des congères de neige tassées, faisant douloureusement tressaillir son épaule. Le train de marchandises devant le gros dépôt se met lentement en branle, les roues crissent contre les rails. Yona essaie de courir, mais les battements de son cœur sont trop lents et il a les poumons en feu. Il escalade le talus enneigé du chemin de fer, glisse et se cogne le genou contre le ballast. Il lâche le coupe-boulon, se relève et monte sur les rails en titubant. Il ne sent plus ses mains ni ses pieds. Ses tremblements sont incontrôlables et le refroidissement extrême le met dans un état de confusion inquiétante. Ses pensées sont étranges, ralenties et fragmentées. Il sait seulement qu'il doit stopper le train. Le lourd convoi commence à prendre de la vitesse et s'approche dans un grincement aigu. Yona se tient au milieu de la voie ferrée. Il regarde droit dans les phares et fait le geste stop, paume ouverte. Le train klaxonne et il distingue la silhouette du conducteur dans la cabine. Les vibrations font trembler le gravier sous ses pieds. Yona dégaine son pistolet, le lève et tire sur le pare-brise de la locomotive. Les éclats de verre volent sur le toit et s'éparpillent avec le vent. L'écho rapide et fracassant de la détonation rebondit entre les conteneurs alignés. Des papiers volettent dans la cabine et le visage du conducteur est totalement inexpressif. Yona braque son pistolet sur l'homme. Le train décélère dans un bruit de friction étourdissant. Les freins grincent et ralentissent doucement la course du train qui s'arrête à seulement 3 mètres de Yona. Il manque de tomber en descendant du remblai. Il ramasse le coupe-boulon et se tourne vers le conducteur de train.
« Ouvrez les conteneurs rouges !»
dit-il.
« Je n'ai aucune autorité pour... »«
Faites-le, c'est tout !»
crie Yona. Et il jette le coupe-boulon par terre. Le conducteur descend de la locomotive, prend l'outil et longe le convoi. Yona lui emboîte le pas et montre le premier conteneur de couleur rouge. Sans un mot, le conducteur monte sur l'attelage brunâtre et fait sauter la serrure. La porte s'ouvre et des cartons remplis de téléviseurs se déversent sur les rails.
« Le suivant !» chuchote Yona.
Il marche, perd son pistolet, le ramasse dans la neige et poursuit le long des wagons. Ils en dépassent 8 avant de trouver le conteneur rouge suivant portant l'inscription « Hambourg Sud ». Le conducteur sectionne la serrure, mais ne parvient pas à dégager la robuste barre. Il tape avec le coupe-boulon et le tintement du métal contre le métal résonne lugubrement dans la zone portuaire. Yona arrive en titubant. Il pousse la barre vers le haut et la lourde porte en métal s'ouvre grand. Disa est allongée sur le plancher rouillé du conteneur. Elle est blême et ses yeux ouverts retiennent une question. Elle a perdu une botte et ses cheveux sont congelés autour de sa tête. Sa bouche s'est figée dans une expression de terreur et de pleurs. Du côté droit de son long cou mince, il y a une profonde coupure. La flaque de sang sous sa nuque est déjà recouverte d'une pellicule de glace lisse. Yona la descend doucement du conteneur et fait quelques pas pour s'écarter du train.
« Je sais que tu es en vie, » dit-il,
et il tombe à genoux avec Disa dans ses bras. Un peu de sang coule sur sa main, mais le cœur de Disa s'est arrêté. C'est terminé. Il n'y a pas de retour possible.
« Pas ça !» chuchote Yona entre ses cheveux. « Pas toi !»
Il la berce lentement, tandis que la neige tombe sur eux. Il ne remarque pas la voiture qui s'arrête et n'a pas conscience de la présence de Saga Bauer qui se précipite vers lui. Elle est pieds nus et seulement vêtue d'un pantalon et d'un t-shirt.
« Les renforts sont en route »
crie-t-elle.
« Dieu du ciel, qu'est-ce que tu as fait? Tu as besoin d'aide !»
Saga hurle dans son unité radio et pousse des jurons. Comme dans un rêve, Yona l'entend forcer le conducteur de train à retirer sa veste qu'elle pose ensuite sur ses épaules. Puis, elle se laisse tomber assise derrière lui et met ses bras autour de son corps, tandis que les sirènes des ambulances et des voitures de police envahissent tout le port. La neige est balayée du sol sur un large cercle quand l'hélicoptère ambulance jaune se pose en oscillant sur ses patins. Le vacarme est assourdissant et le conducteur de train s'éloigne à reculons de l'homme qui tient la femme morte dans ses bras. Les pales du rotor continuent de tourner quand les ambulanciers sautent à terre et accourent, leurs vêtements secoués par le vent. Le souffle de l'hélice fait voltiger des papiers gras qui se plaquent contre la haute clôture grillagée. C'est comme si tout l'oxygène disponible était subitement chassé. Yona est en train de perdre connaissance quand les ambulanciers le forcent à lâcher le corps de Disa. Ses yeux sont troubles et ses mains gelées toutes blanches. Il tient des propos incohérents et tente de résister quand ils veulent l'allonger. Saga pleure quand on l'emporte sur la civière et qu'on le monte à bord de l'hélicoptère. Elle comprend que le temps presse maintenant. Le bruit des pales se modifie lorsque l'engin décolle à la verticale et qu'une brusque rafale le fait tanguer. Le rotor cabre. L'hélicoptère pointe vers l'avant et disparaît au-dessus de la ville. Pendant qu'il découpe ses vêtements, Yona s'enfonce dans un coma léthargique. Ses yeux sont ouverts, mais les pupilles se sont élargies et restent fixes, sans plus aucune réaction à la lumière. Aucune respiration, aucun pouls n'est perceptible. La température corporelle de Yona Lina est en dessous de 32 degrés quand il se prépare à atterrir sur l'hélisurface du bâtiment P8 de l'hôpital Karolinska.